frères et sœurs présents dans ce temple ou à distance, encore une fois, nous sommes venus, encore une fois, pour chanter Pâques avec obstination. Nous sommes venus pour défier, grâce à Dieu, les forces des ténèbres et pour croire encore que la nuit ne peut empêcher Dieu de faire se lever la lumière. Nous sommes venus pour accueillir l'espérance, pour respirer la joie qui se lève et se maintient au milieu des doutes et des peurs, pour trouver la paix qui surgit et tient bon face aux conflits et aux difficultés, pour percevoir la vie que rien ne peut écraser, même pas le fardeau de la mort. Nous voici donc pour célébrer l'œuvre de Dieu, dont l'unique travail, l'unique occupation depuis le commencement consiste sans relâche à relever la vie dans l'éternité. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter au cantique 209. Chantez à Dieu d'un même cœur, nous le chantons en entier. Nous restons debout pour la prière de louange dans laquelle Isabelle va nous conduire.
Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Tu nous as fait du bien en nous donnant Jésus ton Fils. Il nous a parlé de toi comme d'un Père qui accueille tout le monde à sa table, qui se laisse déranger en pleine nuit et qui attend à bras ouverts même ceux qui s'éloignent au-delà des frontières du refus. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Tu nous as fait du bien en nous donnant Jésus-Christ, notre frère. Il nous a parlé de nous-mêmes, nous disant que nous étions reconnus et aimés. Il nous relève dans la dignité et l'humanité. Il nous donne le courage de marcher sur notre route. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Aucune puissance n'a pu emmurer Jésus-Christ, notre Sauveur. L'amour qu'il a distribué, le pardon qu'il a offert, la liberté qu'il a éveillée, la vie qu'il a relevée, tout ce qu'il a servi, de la part de Dieu, illumine notre existence et l'humanité entière. Béni sois-tu, béni soit Jésus-Christ, qui ranime notre espérance et nos énergies, qui allume le cœur de notre vie, un grand feu d'amour, qui a ouvert pour nous les portes de ton règne et qui a donné sa vie pour signer ta parole. Alléluia. Et nous chanterons Pâques avec le cantique 204, les quatre strophes.
Nous prions avant de lire dans les Écritures. Éternel notre Dieu, en ce jour de vie, en ce jour de gloire, nous te prions afin que ton esprit ouvre nos esprits à ta parole et qu'elle se lève et qu'elle jaillisse, qu'elle vienne irriguer nos terres desséchées, nos terres assoiffées et qu'elle fasse se lever en nous la joie, la paix, l'éternité. Amen. Eh bien, puisque nous avons lu lors des veillées de jeudi et de vendredi le récit de la Passion dans l'Évangile selon Luc, eh bien, c'est donc dans l'Évangile selon Luc que je vous invite à entendre le texte de ce jour au chapitre 24, les versets 1 à 12. Le premier jour de la semaine, elles vinrent au tombeau de grand matin en apportant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles étaient perplexes à ce sujet, deux hommes survinrent devant elles en habits éclatants. Toutes craintives, elles baissèrent le visage vers la terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il s'est réveillé. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il se relève le troisième jour. » Et elles se souvinrent de ces paroles. Elles s'en retournèrent du tombeau pour raconter tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie de Madeleine, Jeanne, Marie de Jacques et les autres avec elles. Elles le dirent aux apôtres, mais ces paroles leur parurent une niaiserie et ils ne crurent pas les femmes. Pierre cependant se leva et courut au tombeau. En se baissant, il ne vit que les bandelettes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, s'étonnant de ce qui était arrivé. Eh bien, n'en déplaise au titre de cette péricope que je vois inscrite sur cet exemplaire de la Nouvelle Bible Second, ce récit n'est pas le récit de la résurrection de Jésus le Christ. Il n'y a pas de récit de la résurrection de Jésus le Christ. Les évangiles, celui de Luc et les trois autres, ne livrent que des récits d'après. La pierre est déjà roulée, le tombeau est déjà vide. Rien n'est écrit, rien n'est imaginé de ce qui a pu se produire pour que ce tombeau soit vide. Seuls quelques évangiles apocryphes, qui n'ont pas été inclus dans le canon du Nouveau Testament, tentent de décrire la résurrection de Jésus. Ainsi, l'évangile de Pierre, dans un récit tout à fait extraordinaire, dont les images de puissance et de grandeur sont certainement impressionnantes, mais elles ont aussi pour effet de cantonner la résurrection du Christ dans le passé. Cela, c'est précisément, sagement et heureusement, ce que ne font ni Matthieu, ni Marc, ni Luc, ni Jean. Il n'y a que des récits d'après la résurrection. Et cet après, en quelque sorte, libère la résurrection et le ressuscité d'un ancrage temporel qui nous conduirait à célébrer aujourd'hui un événement du passé, un événement passé. Ce que la résurrection n'est pas. Célébrer Pâques, ce n'est pas célébrer un événement daté de l'an 33 environ. Célébrer Pâques, c'est affirmer que la résurrection, c'est aujourd'hui. Les évangiles, comme récits, ont été écrits après la résurrection, y compris les récits de Noël, y compris les récits de la passion et de la mort de Jésus. Écriture d'après, ou pour le dire autrement, le point de départ des évangiles ne se tient pas dans le commencement des récits, mais plutôt à la fin. Ce qui commence, c'est qu'il est vivant, alors qu'il avait été mis à mort. Et cela permet de comprendre de cette manière que les évangiles ne sont pas des comptes rendus de la vie de Jésus, mais des témoignages de foi qui remontent de la résurrection jusqu'à la naissance de Jésus, enfin au moins pour deux d'entre eux. Et ils font ce trajet à rebours parce que le Christ est ressuscité et que l'homme Jésus était le Christ. Les évangiles ne sont pas des preuves, car s'il y a des preuves, ce n'est pas la peine de croire. Savoir suffit. Et croire et savoir, ce n'est pas du tout la même chose. Cela ne fait pas vivre du tout de la même manière. Les évangiles sont des poèmes. Et un poème ne prouve rien. Il ouvre une possibilité à saisir dans un acquiescement souvent un peu fou et au risque de ne pas être cru par d'autres. Les évangiles sont des poèmes qui désignent, qui chantent, qui traduisent à leur manière, car il y en aurait et il y en a d'autres des manières, ils traduisent une compréhension, une révélation d'une expérience spirituelle de transformation de l'être et de la qualité de sa vie. Dans ses lettres, ses épîtres, Paul témoigne lui aussi de cette expérience et de ses conséquences, et il le fait tout autrement que les évangélistes. Par exemple, Paul n'évoque jamais le tombeau vide. Du ressuscité, il parle abondamment. Mais dans ses épîtres, il n'y a pas de tombeau vide. Paul connaissait pourtant Pierre et les autres disciples. Alors, évangile comme poème, résurrection sans tombeau vide, nous voici libérés de la nécessité de la preuve, d'autant plus que la foi n'est pas foi dans le texte même d'évangile, mais foi en celui auquel le texte d'évangile ou d'épître rend témoignage. Ne nous trompons pas. Et tout cela nous engage à lire ce matin le récit de Luc, en dehors de toute quête de preuves, et avec une lecture vraiment croyante, pour entendre ce que le texte donne à comprendre de cette résurrection. Et je vous propose d'y entrer à partir de l'annonce faite par deux hommes en vêtements brillants aux femmes venues prendre soin du corps du mort, du corps du crucifié. Et ces hommes en vêtements brillants disent: il n'est pas ici, mais il est ressuscité, réveillé. Il n'est pas ici. Eh bien, quel est cet ici? Bien sûr, dans le récit de Luc, il s'agit du tombeau. Et le tombeau, c'est le lieu des morts, le lieu de la mort. Mais il est quand même bien d'autres sortes de morts que la mort biologique. Il n'est pas ici, pas dans ce que le tombeau, les tombeaux, signifient. Il n'est pas dans ce qui enferme et étouffe. Il n'est pas là et quand l'amour, la justice, l'humain sont crucifiés et ensevelis par des appétits de pouvoir, des soifs de richesse. Il n'est pas dans les actions d'oppression et de prédation. Il n'est pas dans ces ordres imposés et incontestés qui ne sont souvent que des formes particulières du chaos. Il n'est pas dans ce qui tue, dans ce qui sert la mort, les morts. Il n'est pas ici. Il n'est pas alors non plus dans des définitions, ni dans des expressions, même de foi. Il n'est pas dans des dogmes, ni dans des ouvrages de théologie, pas plus qu'il n'est dans des mots humains alignés sur une page, même des mots très précieux, très rares, très beaux. Il n'est même pas dans la Bible, qui offre des images, des mots, des accents, des éclairages, des horizons, tout cela dépendant de la manière dont elle est lue et interprétée, et c'est parfois une manière tout à fait mortifère. Il n'est pas ici non plus, dans un temple, qui est seulement le lieu de rassemblement de tous ceux qui cherchent et qui ont à veiller que ce lieu ne devienne pas celui d'une quête de pouvoir. Il n'est pas dans le pain et le vin de la scène, qui ne sont toujours que pain et vin, qui font signe, oui, en étant partagés, mais surtout pas lieu de tri entre ceux qui en seraient dignes et d'autres qui ne le seraient pas. Il n'est pas dans les églises, ces institutions toujours tentées de se croire propriétaires de l'Évangile. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Et comme l'écrivait le pasteur Wagner, la résurrection est la réponse de Dieu à Vendredi Saint, la réponse de Dieu à la mise à mort de Jésus. C'est une réponse qui n'efface pas la mort, mais qui la surmonte et la dépasse. Et ce n'est pas une réponse en forme de punition ou de vengeance, mais une réponse en forme de don, à croire vraiment que Dieu ne fait pas autre chose que de donner. Donner la grâce et la vie. Donner des encore et des pourquoi pas et des malgré tout. Dieu ne demande ni ne se satisfait de la mort. Son œuvre est de créer, d'insuffler la vie. Pâques dit ainsi tout l'amour de Dieu pour le monde, sa volonté pour le monde, pour chacun et pour tous. Et les textes des évangiles, dans leur diversité, leurs poèmes, font parfaitement comprendre que la résurrection n'est pas un retour à la vie antérieure, mais une nouveauté qui ne répond pas à des critères biologiques ou physiques. Ce n'est pas l'homme Jésus qui est ressuscité, revenu à sa vie antérieure d'avant la croix. C'est le Christ, en tant que puissance vivifiante de Dieu, en tant que parole et acte de Dieu. L'homme Jésus qui était le Christ a manifesté par toute sa vie la vérité et la réalité de cette puissance, de ce don de Dieu. Il a montré par ses actes et par ses paroles que Dieu ne cesse de lutter contre le chaos, contre le mal, les injustices, le mensonge, la mort, en créant et recréant l'humanité de l'humain. Et c'est pourquoi c'est le huitième jour quand les femmes vont au tombeau. Parce que le huitième jour, c'est un nouveau premier jour, comme une reprise, une nouvelle création. La mort n'a pas eu le dernier mot. Il y a une puissance vivifiante qui la transperce. Et ce n'est pas un fait devant être prouvé, c'est une expérience spirituelle, un élan, une dynamique dont Pâques est le nom, un nom de libération, un nom de passage, un nom d'avenir. Ainsi, les femmes sont-elles remises en route ? Elles ne vont plus se consacrer à leur tâche de femme qui est de prendre soin du corps d'un mort. Elles ne vont plus pleurer, elles ne vont plus se préoccuper des rites. Elles iront trouver des vivants et leur parler parce qu'elles se souviennent que c'est ce que Jésus faisait, montrait, et qu'il n'y a pas en elles seulement un souvenir, mais une dynamique, une poussée, un élan. Grâce aux paroles des hommes en vêtements brillants, elles se souviennent d'une vocation, d'un appel, d'un exemple, d'une parole. Elles se souviennent, pas dans une mémoire dormante comme l'eau d'un étang, mais dans une mémoire vive comme l'eau d'un torrent qui jaillit au présent pour y inscrire l'espérance. Marie de Magdala, Jeanne, Marie de Jacques et les autres femmes ont une nouvelle mission. Non plus l'embaumement du mort, mais l'annonce aux vivants. Pâques est aussi une dynamique de parole, la simple parole, à la fois faible, car elle renonce à la force, et forte, car elle rebondit de siècle en siècle et de lieu en lieu, afin que la nouvelle se répande dans le monde pour toucher les humains en manque de vie vivante. Les disciples ne croient pas les femmes. Faible parole, qui passe même parfois, oui, pour une niaiserie. Les premières apôtres connaissent l'échec. Alors ne nous affligeons pas trop des nôtres. Pâques est le nom d'une aventure de vie et de rencontre, pas celui de notre succès. D'ailleurs, Luc développe d'autres manières d'être rejoint par la résurrection, avec les disciples d'Emmaüs, avec Pierre et ceux qui étaient restés à Jérusalem, dans le livre des Actes avec Paul et d'autres encore. Il n'y a pas qu'un seul modèle, car c'est toujours aussi cela, Pâques. Non seulement la résurrection du Christ, mais toujours aussi celle de l'humain. Le Christ est ressuscité. C'est toujours l'annonce faite par une parole elle-même, par une personne elle-même ressuscitée, comme les femmes allant embaumer le corps du crucifié sont ressuscitées en femmes porteuses de la bonne nouvelle. C'est aussi pourquoi Luc précise que non seulement les femmes se mettent en route vers le tombeau le huitième jour, mais qu'elles y vont tôt le matin. Aux premières heures du jour. parce que c'est un jour tout neuf qui commence à peine. La nuit n'a pas vraiment disparu, mais il faut bien un entre-deux pour passer de l'un à l'autre, pour passer du jour à la nuit, pour passer du passé au présent. Pâques, c'est une aube qui indique que le jour qui vient est nouveau, et donc que le passé est passé, qu'il ne pèse pas sur le présent, ni sur l'avenir. Le passé reste dans le passé de nos vies, de nos erreurs, de nos errances, le passé de souffrance et de servitude. L'aube de Pâques n'indique pas une commémoration, mais une ouverture, un appel, une brèche vers un horizon lumineux, et le Christ est là, vivant et présent, en ceux qui passent la brèche, suivent l'appel. Il est là présent, mais pas contenu, pas enfermé, mais libérant, selon la volonté divine. Pâques est l'aube d'un jour nouveau, aujourd'hui. Tel est le sens de l'humanité de Pâques. Il y a plus que l'humain en l'humain. Il y a aussi le Christ. Oh, pas tout du Christ, mais le Christ quand même. Et nous en témoignerons tout à l'heure en partageant la scène. Car si le Christ n'est pas dans le pain et dans le vin, il est celui qui invite dans la communion, au repas, un repas de fête, un repas de mémoire et un repas d'avenir. Sa mémoire et notre avenir en lui. Et pas seulement le nôtre en tant que personne, mais l'avenir du monde, tant il est vrai que nous signifions à la scène, par le cercle et par le partage du pain et du vin, par la prière et l'écoute, que le monde que nous voulons et pour lequel nous travaillons avec lui, avec le Christ, est un monde dont personne n'est exclu, un monde où personne ne manque de pain, ni de parole, ni de fraternité. Un monde où l'on ne classe ni les premiers, ni les derniers. Nous ne célébrons pas le passé aujourd'hui, ni aucun dimanche. Nous célébrons la présence du Christ vivant. Alors que retentissent les bruits de guerre, les cris de haine, les mensonges des uns et les contre-vérités des autres, alors que la vénération de figures du passé prend la place de la pensée, de la responsabilité, nous célébrons aujourd'hui qu'en Christ, nous ne soyons pas condamnés à subir l'échec, ni à désespérer de ce qui est et de ce qui vient. Le cri de Pâques, il est ressuscité, c'est un cri d'engagement, un cri de présence, nos présences engagées dans le monde et dans l'aventure d'un avenir qui n'est pas écrit. Le Christ ressuscité est celui qui invite à sa table, abondamment pourvu de vie et d'amour, là où se partage la paix, là où coule la joie. Le Christ est ressuscité. Et c'est chaque fois qu'une personne abattue par une injustice, une oppression, un échec, une rupture qui l'empêche de mener une existence pleinement humaine, chaque fois que cette personne est relevée. Le Christ est ressuscité et c'est chaque fois qu'une personne endormie, anesthésiée dans des habitudes, des routines, des rites qui n'ont plus de sens, ou par des mensonges et des manipulations qui l'empêchent de penser, de choisir par elle-même, quand cette personne est réveillée. Être relevé, réveillé, ressuscité, vivre d'une manière nouvelle, passer d'une qualité de vie à une autre. Pâques n'est pas un fait du passé, mais une réalité d'aujourd'hui. Il n'est pas ici. Mais il est ressuscité. Ce n'est pas la formule pour se souvenir d'un antique événement, mais c'est la proclamation de la puissance vivifiante pour le présent, pour la vie de chacun. C'est le sens de l'humanité de Pâques. Il y a plus que l'humain en l'humain. La révélation en plénitude de Pâques et que le Dieu de Jésus-Christ est Dieu contre la mort, Dieu de la vie, pour la vie de chacun, une dimension et une qualité de vie qui investissent et transcendent la vie naturelle pour lui donner sa vérité et sa beauté en vie ressuscitée. Amen. Je vous invite à vous lever pour entendre et vous associer, si vous le souhaitez, à cette confession de foi.
Avec Jésus de Nazareth apparaît une vie libre, donnée aux autres jusqu'à la mort et pourtant souveraine. Cette vie est un don qu'il nous faut comprendre. Cette vie est celle à laquelle nous sommes appelés. C'est pourquoi, éclairé par le témoignage des disciples, porté par la communion de nos frères et sœurs en la foi, nous croyons en lui et nous reconnaissons en lui le Christ, fils de celui qui nous appelle, malgré tout, à partager cette vie qui triomphe toujours de la tristesse et du désespoir, de la fermeture et du moralisme, de la haine et de la mort. Avec Jésus le Christ, éternellement vivant, avec le secours de l'Esprit et avec tous les humains, nous essayons de marcher vers celui qui depuis toujours nous appelle à lui et que nous nommons Dieu. Amen. Et nous chanterons Pâques avec le cantique 203, les trois strophes.
Éternel, éternel Dieu, aucun mot humain ne pourrait te définir. Et pourtant, nous sentons bien que c'est de toi que provient l'indicible transcendance de notre vie. Tu n'es pas à l'extérieur de nous, et pourtant, tu n'es pas seulement en nous. Nous aspirons à une vie en plénitude. Nous croyons en Jésus-Christ. Non pas pour qu'il nous entraîne dans un paradis, mais pour qu'il nous ouvre à la transcendance qui est celle de ta présence dans notre humanité. Il a vécu pleinement sa vie d'homme, mais a été rejeté et mis à mort, la mort de la croix. Et pourtant, c'est de cette mort que surgit un nouveau commencement. Il nous fait naître à une humanité plus profonde et plus authentique et nous amène à prendre conscience que c'est en toi que nous vivons et lui en nous. La scène célèbre cette réalité et nous appelle à la vivre pleinement. Nous croyons qu'une nouvelle création est ainsi en route, en laquelle nous te connaissons davantage, ô notre Dieu, et où nous vivons vraiment de ta présence agissante en nos cœurs. C'est pourquoi, en communion avec tous ceux qui se mettent à son écoute et à sa suite, nous rendons grâce et nous chantons le cantique 231. De toi, Seigneur, nous vient le don.
Thank you.
prenez place. Père, c'est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels. C'est pour rassembler tes enfants dispersés que Jésus, ton Fils, a pris du pain, l'a rompu en bénissant ton nom et l'a partagé avec ses amis en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Après le repas, il a pris la coupe et de nouveau, en bénissant ton nom, il l'a donnée à tous ses amis en disant « Prenez et buvez-en tous, ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en souvenir de moi. » Nous nous recueillons dans la prière.
Père, donne-nous ton esprit d'amour. À nous qui venons à cette table comme tes invités et tes enfants, pour y communier à la vie, à la mort, à la résurrection de Jésus-Christ, avec tous ceux qui l'aiment et croient en lui, donne-nous la force, le courage et la volonté d'être des artisans de ta paix, de ton royaume, des ambassadeurs de ta réconciliation, des témoins de la vie éternelle. Rassemble-nous en toi avec tous ceux pour qui le Christ, Jésus le Christ, a donné sa vie et que tu veux attirer à lui. Nous portons dans notre prière ceux qui découvrent dans leur existence un goût de résurrection et nous nous en réjouissons avec eux. Nous faisons place dans notre prière à ceux dont le sang coule, ceux dont la vie est sacrifiée au nom d'intérêts particuliers, ceux qui sont emportés par l'orgueil, la démesure, la haine et la violence, aux familles endeuillées, dispersées, chassées. Par ta prière, nous tenons à toi, nous tenons à eux, frères et sœurs, humains, souffrants, errants. Nous nous tenons avec eux dans l'amour et dans l'espérance. Et maintenant, nous rassemblons nos prières dans celles que Jésus nous a enseignées et que nous pouvons dire à voix haute ou dans le secret de notre cœur. Qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Siècle des siècles. Amen. Que celui qui a faim s'approche de cette table. Que celui qui a soif vienne, pas que le Seigneur lui-même va présider. Nous sommes tous invités, petits ou grands. Nul ne peut être exclu de la table du Seigneur. Venez maintenant, car tout est prêt. Alors, nous allons faire un cercle. J'invite les personnes qui sont à la tribune de descendre. Nous allons faire un cercle et puis, comme nous sommes un peu nombreux, je pense que nous pourrons aussi prolonger le cercle dans l'allée, d'un côté et de l'autre de l'allée, le temps de la distribution. Nous compasserons pour donner le pain et le petit gobelet de vin. Lorsque vous aurez reçu l'un et l'autre, vous pourrez communier. Venez. Si vous ne voulez pas communier, vous pouvez quand même rejoindre le cercle. Et voilà, vous serez avec nous quand même. Est-ce que tout le monde a une place ? N'hésitez pas à rentrer dans l'allée centrale. Et puis je vous invite à saluer votre voisin, votre voisine, à droite, à gauche. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des frères et des sœurs. Nous rompons le pain. Il est la communion au corps du Christ. Le Christ vivant met en nous sa vie pour que notre vie devienne sienne. Et nous disons merci pour la coupe. C'est la communion au sang du Christ versée pour nous, la nouvelle alliance. Jésus le Christ fait couler en nous sa vie comme un sang nouveau, comme un vin de fête, pour que notre vie soit sienne dans l'espérance et dans l'amour.
Maintenant, nous prions. Tout à l'heure, les portes vont s'ouvrir à nouveau sur la ville et nous sortirons. Nous allons retrouver les visages connus, les foules de la rue, la maison familière, la peine des malades, la joie des enfants, la solitude peut-être, la vie comme elle est. Mais le partage de la parole, du pain et du vin, le partage de ce travail des humains et des fruits de la terre, nous accompagne dans notre recherche quotidienne de la cité de Dieu, ainsi que dans les jours qui viennent, le symbole de ce pain et de ce vin nourrisse notre amour du prochain, au cœur même de notre vie. Amen.
Je vous invite à vous relever pour chanter. Pour chanter au cantique 212, mon Rédempteur est vivant. Place. Voici des annonces pour aujourd'hui et les jours qui viennent. D'abord, pour aujourd'hui, merci à Nicole pour son accompagnement. Et puis vous trouverez bien sûr, vous aurez bien sûr à la sortie du temple l'occasion de déposer vos dons pour la collecte solidaire au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Suite à un appel que j'ai reçu cette semaine, j'ai affiché une nouvelle feuille de produits dont l'épicerie a particulièrement besoin en ce moment. Vous pouvez apporter d'autres choses, bien sûr, produits non périssables, produits d'hygiène, produits d'entretien. Mais ce qui est affiché est particulièrement en manque à l'épicerie en ce moment. Donc voilà, ça donne une indication. Pour la semaine qui vient, alors mardi 19, le conseil presbytéral se tiendra à partir de 20h dans la salle du second étage et nous recevrons lors de ce conseil presbytéral une délégation, enfin des responsables du FSA, la troupe des éclaireurs éclaireuses unionistes de France qui a ses locaux au foyer de l'âme, et nous aurons donc l'occasion non seulement de faire mieux connaissance avec eux mais aussi d'un échange sur nos rencontres, nos croisements, nos besoins, nos demandes, nos perspectives communes. Ensuite, mercredi à 20h, le groupe biblique, non pas à 20h, à 19h30, c'est mercredi 20 à 19h30, le groupe biblique se réunira aussi dans la salle du second et par Zoom pour ceux qui, j'enverrai le lien Zoom à tous les inscrits. Et nous, dans notre parcours sur le thème du corps humain, nous parlerons des gestes du corps, des gestes de la prière et du corps. Jeudi, bien sûr, c'est le jour de la pause spirituelle à 12h30, de 12h30 à 13h30 dans le temple. Et puis à 19h30, ce sera la dernière étape du séminaire de notre ami Denis Guénoun sur le Notre Père. Donc le lien Zoom, puisque ce séminaire a lieu uniquement par Zoom, sera envoyé aux inscrits en début de semaine, enfin mardi ou mercredi. Jeudi 22, c'est le groupe des JMJ qui se réunira à 20h et qui va réfléchir en particulier à son évolution. Voilà, parce qu'il souhaite... Vendredi. Et vendredi, je signale qu'il y aura aussi à 20h30 dans le temple un concert d'un compositeur contemporain. Il sera là, il s'appelle Henri Loche. Et donc, il y a des affiches et des tracts sur les tables et dans l'entrée. Samedi 23, c'est la visite au Louvre organisée grâce et par notre ami Fabrice Calais, ici présent, sur le thème de Poussin et la Bible. Il reste quelques places. Il reste 3-4 places. Si vous souhaitez venir à cette visite, le rendez-vous sera 12h30 dans le hall sous la pyramide. Elle durera jusqu'à 3h voilà, environ. Il y aura sur les tableaux de Poussin choisis par Patrice son éclairage de conférenciers, de connaisseurs, de passionnés même de Poussin, et puis un éclairage biblique des textes illustrés par le peintre. Donc voilà, vous pouvez encore vous inscrire uniquement par mail, en m'écrivant par mail. Et puis dimanche 24, il y aura le culte à 10h30 en ce même lieu. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire, à partager, des nouvelles ? Eh bien alors, c'est le moment de l'offrande, et que cette offrande soit libre et joyeuse, sinon ce n'est pas une offrande. C'est un sacrifice et c'est pas bon. invite à vous lever pour entendre l'exhortation, puis nous chanterons le dernier cantique avant la bénédiction.
Elles volent en éclats les portes verrouillées qui nous enferment dans les tombes de nos échecs et de nos fautes, de notre incapacité à vivre avec les autres et avec Dieu. Elles s'ouvrent avec fracas la porte de la mort qui nous ferme tous les ciels, ceux du bonheur d'aimer et d'être aimé, ceux de la paix et de la justice. Elle est ouverte, la porte de la vie, et plus jamais elle ne se refermera. Car il est vivant, celui que nos aveuglements et nos peurs avaient rejeté et enfermé dans la mort. Et il détient pour tous les humains les clés de la vie et l'amour partagé. Tout, désormais, devient possible. Les portes fermées s'ouvrent à l'accueil, à la fraternité, pour laisser passer l'air frais et vivifiant de la confiance et de l'amitié. Elles s'ouvrent à la joie d'une nouvelle rencontre, à l'émerveillement de la présence de Dieu, au sens retrouvé de l'espérance et de la vie. C'est Pâques. Le Christ, vivant pour toujours, inaugure pour nous et pour toute l'humanité un monde sans claquement de porte. Le monde de la liberté, de l'accueil, de la vie et de l'avenir ouvert. Amen. Et nous chanterons Pâques et la gloire du ressuscité au cantique 205 que nous chanterons en entier.
Amis, frères et sœurs, que Pâques vous ouvre des passages dans vos deuils, dans vos peurs, dans vos heures de souffrance. Que Pâques chante en vous l'espérance plus lumineuse que les abîmes. Que Pâques vous recouvre du bien que Dieu réalise pour vous en Jésus le Christ, traversant la mort et vous entraînant dans le jardin de la vie. Que Pâques vous emporte dans le printemps des recommencements, des commencements. Amen.